Regard thématique. Une émission des porteurs de projets du classe de la Mayenne. Bienvenue à l'écoute de Regard thématique. Aujourd'hui, notre sujet du jour porte sur reprendre une vie sociale post-confinement, comment accompagner les familles et les enfants aux gestes barrières et adopter de nouvelles habitudes. Après cette période de 2 mois de confinement, nous allons nous interroger sur comment reprendre une vie presque normale en adoptant les gestes sanitaires nécessaires tout en continuant une vie sociale. L'un des rôles du contrat local d'accompagnement à la scolarité est évidemment d'accompagner les enfants et les familles dans cette démarche. Pour prendre part à cet échange du jour, je suis accompagné de Sandrine Mayoni et Marie-Hélène Joubin du classe de l'association Les Possibles, avec bien sûr quelques bénévoles à leur côté, Sonia Boimer, coordinatrice du classe pour la ville de Laval, et de Marilyn Castry, coordinatrice politique parentalité à la CAF. Bonjour à vous tous. Ma première question concerne cette période de confinement, avant d'aborder le post-confinement. Je souhaite connaître la manière dont vous avez pu entretenir le lien avec les enfants. Sandrine, pour l'association Les Possibles.
Bien, nous, en ce qui nous concerne, on a maintenu le lien avec les parents et les enfants avant tout par voie téléphonique, dans un premier temps, en prenant de leurs nouvelles quotidiennement, enfin régulièrement. Suite à ça, au bout d'environ un mois, on est revenu plus amplement sur l'organisation de l'école à la maison, parce que ça a été une phase où, du coup, ça a chamboulé les habitudes et ça a chamboulé aussi beaucoup de nouveautés au sein des sphères familles. Et du coup, on a proposé, il y a eu des accompagnements scolaires qui ont été spécifiques pour quelques enfants, mais il y a eu d'autres besoins qui étaient plutôt de l'ordre, en fait, de se voir entre pairs, de communiquer, d'échanger en français pour notamment les familles allophones. Et puis voilà, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres besoins en tous les cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter, Marie-Hélène.
C'est vrai qu'avec Manon, du coup, chaque accompagnement scolaire qui émane des possibles est animé de manière distincte en fonction des deux secteurs. En fait, chacun a ses méthodes. Nous, c'est vrai qu'avec Manon, dès le début du confinement, on s'est dit tiens, on va peut-être prendre la température. Des familles et savoir s'il y a vraiment des besoins, sachant qu'on sentait quand même que c'était difficile entre, enfin les liens entre, enfin pas, en tout cas peut-être pas forcément du lien, mais les médias utilisés pour l'entretien du lien entre les familles et les enseignants, ça semblait peut-être un peu compliqué. En tout cas, on est allé voir ça et puis on a repris contact directement avec les bénévoles pour éventuellement envisager quelque chose, sachant qu'Angélique qui est du coup là à Mayenne avec avec Sandrine, on lui a posé la question parce qu'elle est également maman d'une petite fille qui rencontrait ces besoins-là. Donc, on a pensé immédiatement mettre en place quelque chose. Nous, d'abord, au début, on se dit peut-être sous couvert de... Parce qu'après avoir quand même pris le soin d'appeler les enseignants, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un vrai lien, même si ça posait question au niveau du matériel, on sentait quand même qu'il y avait un vrai lien avec les enseignants. Donc, on se dit peut-être que nous, on pourrait apporter peut-être plutôt... notre contribution pour faire en sorte que les enfants se rencontrent pour revoir les potes, parce que on s'est rendu compte rapidement que les enfants ne sortaient vraiment pas, n'avaient pas du tout le lien les uns avec les autres, qu'il n'y avait plus ce lien amical. Comme nous, on bosse plutôt là-dessus sur la maison quartier ou sur des compétences psychosociales, on était vraiment sur l'idée de construire un groupe fort, peut-être même amical, vraiment solidaire. Donc on a pu plutôt on l'a pris sous cet angle-là et il n'y avait pas forcément ce besoin-là des enfants à ce moment-là. Donc il y a eu un travail en revanche qui a été effectué avec deux familles et deux enfants. Et Angélique, elle va pouvoir du coup enchaîner puis en parler. Il y a eu une vraie présence chaque jour quasiment entre Manon et Angélique, parce que moi pour le coup j'étais sur un projet, sur un autre projet. Donc je me suis engagée au début puis j'ai levé le pied. Mais il y a eu un vrai travail visiblement de fait avec Angélique et Manon auprès de deux familles, et notamment des familles allophones dont les mamans étaient très demandeuses parce qu'il y avait un vrai souci de compréhension. Puis il y avait les devoirs qui avaient pris du retard, et c'était vraiment des vraies interrogations de la part des mamans.
Angélique, peut-être qu'il faut préciser des choses.
Donc oui, effectivement, on a eu deux familles sur Brossolette, dans le quartier Brossolette, donc en vision, pour travailler sur les matières principales de l'école, pour éviter qu'ils décrochent. Donc j'étais en permanence avec une famille, et Manon avait une deuxième famille, en fait. Et on était tous les jours en vision avec les enfants, et on travaillait les matières principales, maths et français. Ça a été très bénéfique pour l'enfant en lui-même, parce que moi je suis née en fait. pendant toute la période. Ouais, c'était connexion tous les jours parce que sinon il perdait le rythme et on avait du mal à le remobiliser en fait. Et la maîtresse, on était en contact en même temps avec la maîtresse de cet enfant-là. Du coup, pour aider vraiment qu'il ne perde pas la main.
Marilyn, pour la CAF, c'est important de garder ce lien justement avec les familles et les enfants.
Oui, c'est indispensable. On voit que le confinement a finalement cristallisé un peu toutes les fragilités qui existaient déjà. Il y a un risque de fragilisation qui a augmenté, je pense, auprès de ces familles-là qui étaient déjà en difficulté, notamment dans l'accompagnement de leurs enfants, dans le suivi de leur scolarité. C'est pas évident, c'est clair, de se retrouver à la maison ou dans un appartement, de devoir aider son enfant dans ses devoirs, de faire en sorte qu'il se concentre alors que y a tous les jouets à disposition, il y a la télé. C'est pas évident non plus pour l'enfant de se retrouver enfermé à la maison ou dans son appartement. C'est pas pour moi c'est pas évident non plus pour lui de se concentrer, d'être loin de ses copains. Donc je trouve que les animateurs du classe là l'exemple est vraiment intéressant de ce qui s'est passé en Mayenne, c'est de voir que le lien a été maintenu auprès de ces familles et je trouve que c'est extrêmement important pour ces familles de je pense qu'elles se sont pas comme ça senties un peu abandonnées en fait par rapport à ce confinement, elles se sont aperçues que voilà, les animateurs CAT étaient encore là pour les soutenir. Et puis le lien avec l'école aussi, je trouve hyper important de dire que voilà, malgré le confinement, il y a toujours ce lien qui a existé.
Sonia, tu peux peut-être nous faire un petit point sur la ville de Laval et justement cette dynamique qui a été instaurée pendant le confinement.
Oui, alors tout à fait. Sur le territoire lavallois, effectivement, les maisons de quartier ont essayé de garder le lien avec les familles, les enfants, aussi les écoles. Donc il y a eu des choses de mise en place. Qui sont similaires à ce qu'ont fait les possibles à Mayenne. Effectivement, à prendre contact auprès des familles, faire des photocopies, notamment de certaines leçons et devoirs quand les familles n'avaient pas d'imprimante ou d'ordinateur, de manière à ce qu'elles aient un support papier. Contact téléphonique avec les animateurs, bien évidemment, pour le suivi et aider, essayer d'aider au mieux ses familles et ses enfants. Pour une maison de quartier, je sais que j'ai une collègue qui avait deux ou trois enfants auprès de son lieu d'habitation. Du coup, elle s'est chargée de prendre les enfants en même temps que les siens pour faire quelques devoirs et leçons à son domicile en respectant les distances de sécurité autour d'une table. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi la fabrication de masques dans une maison de quartier pour pouvoir les distribuer auprès des familles et des enfants. Donc non, vraiment, ils ont essayé de faire le maximum pour garder le lien. Tout en sachant que bien évidemment, pour certaines familles, notamment allophones aussi, la même problématique se rencontrait et se trouvaient très démunies pour aider leurs enfants.
On a parlé du confinement, maintenant passons sur cette période post-confinement qu'on vit depuis le début du mois de mai. Justement, Sandrine, comment adapter de nouvelles habitudes avec ce post-confinement ?
J'aurais tendance à répondre à cette question de manière à en soulever une autre en disant effectivement comment. Parce que là, à l'heure actuelle, on fonctionne beaucoup sur la question des besoins, les besoins de famille. On est beaucoup dans cet accompagnement, dans ce suivi, pour le coup à distance encore. Pour le coup, concrètement, et ben nous-mêmes sur le terrain, on se pose cette question-là. Et alors, il y a des pistes qui sont en réflexion. C'est avant tout envisager des espaces appropriés pour maintenir la distanciation possible. Et en même temps, on a eu le discours du président qui argumentait sur un autre volet où on est parti à une étape autre de ce virus-là. Où on est amené, il y a les écoles qui vont reprendre, obligatoires pour l'ensemble des enfants. Donc là, on est encore dans une nouvelle dynamique. Et le comment, j'ai pas la réponse. Là, je regarde les bénévoles, je me tourne vers eux. En fait, on va faire petit à petit et en fonction des besoins, et c'est ça qu'il faut faire en fait, je pense. Enfin, il y aura pas et en gardant cette vigilance. Catherine, pardon.
En fonction de l'organisation à la reprise de la vie.
Aussi, en fait, ça va dépendre.
Ouais, je pense aussi, ouais.
certainement plus dans une logique de préparation, même s'il y a 15 jours d'ouverture à partir de lundi prochain, plus dans une perspective de qu'est-ce qui va se passer en septembre, dans quel cadre on va pouvoir agir, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau cadre, qu'est-ce qu'on va faire concrètement.
Je vais préparer la rentrée de septembre.
Marilène, tu souhaitais intervenir sur regarder justement ces nouvelles méthodes de communication et de fonctionnement, c'est bien ça?
Bon, là, on se rend compte vraiment des limites en fait au niveau du matériel. C'est ça qui est inquiétant parce que en effet, on pourrait imaginer que ça puisse développer toutes ces nouvelles formules à distance là comme on est en train de tenter de mettre en place. Mais alors, ce qui est compliqué, c'est que parfois on est quand même avec des familles qui maîtrisent très peu la langue aussi là. Donc, ce moyen-là serait vraiment très intéressant si vraiment il était vraiment au point, si on arrivait à se comprendre, parce que c'est vraiment très fatigant de réussir déjà à s'adapter avec ce nouveau mode de fonctionnement et puis ensuite le mettre en pratique. Donc, c'est sans doute à l'usage. Et puis, nous, sur place, on n'a pas quand même encore tenté d'accompagner les enfants. Donc...
Sonia, peut-être tu veux rebondir?
Oui, alors, moi, on va préparer aussi, bien évidemment, la rentrée de septembre en s'adaptant, effectivement, à tout ce qui nous arrive. Moi, j'aimerais revenir là plus sur la fin de cette année scolaire, où pour la ville de Laval, nous, on est contraints, pour les maisons de quartier, de ne pas être ouvert au public. Potentiellement, réouverture au public à partir du 22 juin, mais en ce qui concerne le classe, il a été décidé de ne pas l'ouvrir pour la dernière semaine, en fait, jusqu'au 30 juin. Pour autant, le lien avec les familles se fait, le lien avec les bénévoles se fait, on va faire les bilans et on va échanger autour de tout ça justement sur ce confinement, ce déconfinement et cette fin d'année scolaire particulière. Il y aura quand même des actions au mois de juillet dans certains secteurs, je pense notamment aux classes collèges du pavement, où sur le mois de juillet, ils vont mettre en place des cours d'anglais pour les jeunes du classe par petits groupes, voilà, pour essayer de rattraper peut-être un petit peu ce qu'ils n'ont pas pu faire, mais maintenir le lien avec les enfants. Autrement, on a reçu tout un lot de livres là par la Croix-Rouge française, et on est en train de faire la répartition. Notamment, on a pas mal de bouquins pour les CP et les CE1, donc ça va nous permettre de pouvoir travailler un petit peu autrement aussi avec les enfants pour la rentrée prochaine.
Oui, ça fait. Ouais, Marie-Hélène, ça fait partie des pistes justement que j'ai pas développées tout à l'heure, mais oui, il y aura. Justement, pour préparer au mieux la rentrée prochaine, il y aura au cours de l'été, voilà, des liens qui vont être faits concrètement avec nos jeunes.
Marie-Hélène, je t'en prie, si tu veux éventuellement continuer.
Bien sûr. Il y a une vraie présence d'Angélique et puis de Catherine aussi. Moi, on avait l'habitude d'accompagner une jeune fille. Qui est autiste Asperger, hein, voilà, elle le cache pas, elle en a non plus, donc qui est grande maintenant, qui est au lycée, et il y avait un réel besoin d'accompagnement, et puis surtout aussi beaucoup lié à tout cet événement, sans doute peut-être un vrai besoin de retrouver de la confiance, ou en tout cas un cadre sécurisant, et Catherine a su être là pour elle, et Ça c'était vraiment agréable en fait. Là, il y a eu vraiment ça a été vraiment important sur des temps vraiment de un pour un, a été vraiment très chouette. Alors, on n'oublie pas le groupe, hein, au-delà. En aucun cas, Marilyn, hein, je tiens à préciser, mais tu sais que moi je défends vraiment le rapport comme ça, vraiment, enfin à des moments, hein, pour ensuite retrouver le groupe avec de la confiance. Mais c'est vrai que ces temps-là ont peut-être permis à certains enfants qui auraient pu vraiment décrocher. Ou se démotiver peut-être de gagner, enfin de pas en tout cas perdre cette confiance là qui était tranquillement en train de réussir à se développer chez eux. Donc pour ça, c'était le travail des bénévoles a été vraiment hyper hyper important, indispensable.
Marilyn, sur l'équipement numérique, il est important peut-être justement que la CAF puisse être un soutien par rapport aux porteurs de projets et aux familles.
Alors effectivement, cette période a cristallisé des besoins. En fait, ces besoins ils existaient déjà, hein, des besoins notamment au niveau des numériques, des familles qui ne sont pas équipées et également des structures pas suffisamment équipées. Là, l'idée de fin d'année scolaire, c'est de réaliser des bilans sur site ou via téléphone en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, de faire des bilans avec les animateurs des classes pour faire également aussi un état des lieux des besoins au niveau des structures. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais voilà, l'idée, c'est déjà de réaliser un état des lieux pour voir s'il y aurait des besoins, j'imagine que oui, au niveau d'équipements numériques pour les structures. Et l'idée, ça serait de pouvoir prêter aux familles bénéficiaires des classes, ensuite éventuellement des tablettes, etc. Après, se posera de toute façon la question de l'accompagnement des familles au numérique, toute cette question d'accompagnement. Et puis la question, c'est vrai qu'il y a des fois des zones blanches, notamment en milieu rural, où il y a des problèmes de connexion. Ce que me disait, par exemple, Émilie, référente famille là, au centre social à Cran, qui me disait que certaines familles avaient des problèmes de connexion aussi par rapport à leur lieu d'habitation. Bon, ça, après, c'est encore autre chose. Et je voulais aussi revenir sur la poursuite des classes. Alors, effectivement, là, il nous reste 2 semaines avant les vacances scolaires. Donc, il y a effectivement des classes qui vont reprendre pour ces 2 semaines-là, d'autres pas. La question aussi, c'est finalement la poursuite éventuelle des classes qui serait possible pendant l'été. Après, c'est pour savoir au niveau des réalités sur le terrain. Mais la CNAF réfléchit à un financement supplémentaire pour pouvoir soutenir les classes au moment de cette période estivale. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place, notamment les vacances apprenantes. Alors après, ce serait peut-être intéressant d'organiser peut-être encore une visio comme ça, en invitant l'éducation nationale pour voir qu'est-ce qui est proposé, notamment en Mayenne, sur certains dispositifs pour venir en renfort, pour venir soutenir en fait ces familles et les enfants en difficulté scolaire dont les difficultés se sont amplifiées en fait pendant cette crise sanitaire. Donc à voir si ce serait peut-être intéressant d'inviter l'éducation nationale, parce que c'est vrai que je maîtrise pas forcément tous ces dispositifs-là, mais il y a des choses qui sont sorties là pendant le confinement.
Effectivement, il y a cette notion de vacances apprenantes qui peut être intéressante. Il serait peut-être pertinent de pouvoir en tout cas rencontrer l'éducation nationale pour nous apporter un éclaircissement en tout cas sur cette partie-là. Sandrine, je reviens sur la partie numérique. Il y a pour vous vraiment besoin d'avoir un accompagnement, en tout cas numérique, en termes d'équipement, et peut-être un accompagnement aussi, en tout cas, des bénévoles et de vous pour accompagner.
Après, oui, alors c'est un constat qu'on a fait. C'est un constat qu'on a fait qu'en fonction du foyer familial, il y a des écarts au niveau du matériel. Après, ça n'a pas empêché les téléphones portables, la base, ça a été le téléphone. Et à partir du téléphone, même en visio, les familles sont quand même parvenues à se connecter via nous, en l'occurrence Skype. Donc, mais c'est une réalité, oui. Il y a des familles qui étaient en manque de d'outils de ce genre.
On avait plus de moyens matériels, oui, pour aider les enfants davantage. Moi, avec un téléphone portable, pour aider les familles, c'est compliqué.
Oui, pour compléter ce que disait Angélique, effectivement, nous, sur la période de confinement, il y a eu ce manque de matériel, je l'évoquais tout à l'heure. J'ai même une structure qui m'a sollicité pour que je leur fournisse des tablettes pour des familles. Malheureusement, j'étais pas dotée de tablettes supplémentaires pour pouvoir aider ces familles. Donc, c'est vrai que la vraie question, elle se pose au niveau de l'outil numérique. Et comment on peut aider ces familles qui sont en manque d'outils numériques ou qui ont un seul outil numérique, un ordinateur ou une tablette, et où il y a 3, 4, 5 enfants, primaire, collège, voire lycée, parce que là, on est aussi dans une réalité.
Sandrine, si tu voulais éventuellement intervenir, il n'y a pas de souci.
Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Sonia, effectivement. Nous, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement scolaire du côté de l'Angélerie, on a eu un exemple de ce genre-là où au sein même d'un foyer familial, il y avait la fratrie. Et du coup, effectivement, quand il y a 2 collégiens, 2 en primaire, c'est difficile du coup de se dire avec un ordinateur, comment on fait. Mais c'est aussi difficile de se dire, d'organiser les choses quand, par exemple, dans le foyer en question, c'est une jeune de la famille et pas forcément les parents parce qu'ils ne parlent pas forcément français C'est aussi cette partie organisationnelle que je pense on aura à l'avance parce qu'on a vécu une phase. Et du coup, en fait, on va anticiper sur ce. Ça nous permettra d'anticiper parce qu'en fait, on sait comment ça se déroule. Donc, parce que nous, la jeune en question qui s'occupe de la scolarité de ses frères et sœurs, elle s'est trouvée à un moment débordée par les mails des enseignants à se dire par où je commence, par qui je commence, est-ce que. Je commence par ma grande, par ma sœur qui est en grande section. Est-ce que je commence par mon frère qui est au collège? Donc, il a fallu l'accompagner en fait dans cette partie organisationnelle. Et c'est peut-être un de ces points-là où on sera peut-être plus à l'aise avant tout, parce qu'on l'aura déjà vécu.
Je pense qu'il serait pertinent en tout cas de pouvoir inviter à notre prochaine vidéo très prochainement Yann Péchard, afin du coup effectivement de parler de cet été qui arrive maintenant très vite, et du coup de pouvoir éventuellement parler du dispositif vacances apprenantes.
On va tirer les leçons de ce qui s'est passé et puis être mieux armés en tout cas pour garder ce contact avec les familles, pour les accompagner au plus près, et puis accompagner en tant que CAF, en tant que financeur, d'accompagner aussi les porteurs de projets, les animateurs professionnels et bénévoles, et pas que en termes de financement bien sûr, mais en termes aussi de notamment d'échange de pratiques. Et c'est pour ça que voilà, le blog Interclass là a pris tout son sens, même s'il n'est pas encore bien activé, on va dire, a pris tout son sens en tout cas pendant cette crise. Qui sera d'ailleurs un lien aussi pour les familles. Hein. L'idée, c'est que les familles puissent aller sur ce blog-là pour avoir des idées d'activités à réaliser avec ses enfants, etc.
Je vous remercie d'avoir été tous présents et je vous dis à très vite sur la vidéo. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été là aujourd'hui.